Un passage en salon à Angoulême ou à Bruxelles, à la Japan Expo ou la Polymanga, et c'est sûr vous l'avez vu. Vous lui avez sûrement parlé, et qui sait, il vous a peut-être même vendu des mangas, parce que Thibaut, il est fort pour partager sa passion et vendre des mangas. Un profil original dans ce podcast, car il y a une personne de l'ombre, un passionné qui travaille dans les salons et représente les éditions Kana depuis bien des années. J'ai pensé intéressant d'aller à la rencontre d'un autre acteur du manga et je souhaitais vous partager cet entretien. Aujourd'hui, il a beaucoup évolué et en plus de gérer toute une équipe, il est devenu éditeur freelance pour les éditions Kana. Le premier à avoir ce statut particulier et s'annonce de belles choses, mais je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite un très bon épisode en compagnie de Thibaut. Bonjour et bienvenue dans Pain sur la planche, un podcast d'interview d'artistes créatifs et créateurs du secteur manga. Un nouveau chapitre est disponible toutes les deux semaines, alors que vous soyez sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer, je vous invite à vous abonner pour ne rien rater. Je vous invite également à venir nous suivre sur Instagram à pslp.podcast. Une fois par mois, nous vous proposons l'émission Croissant de Lune. Croissant de Lune, c'est une émission proposée en collaboration avec la librairie Tsukimi à Lyon, où on parle de sujets divers et variés autour du manga. À titre d'exemple, en mars, l'épisode était autour d'un top 5 avec de très beaux mangas dedans que je vous invite à aller écouter. Sur ce, je vous souhaite encore une fois un très bon épisode. Thibaut, on est aujourd'hui à Poitiers,
oui.
Sur un salon, un de plus, j'ai envie de te dire.
Oui. Un nouveau
que t'avais jamais fait.
Jamais fait.
Première. C'est un peu ton Pokédex, les salons.
Oui, ça pourrait. Ouais, je pense que je pourrais. J'en ai beaucoup rigolé avec différents collègues, que ce soit en salon ou en interne, au fur et à mesure des années. C'est que je pourrais faire un bouquin ou un guide, tu sais,
des salons,
les plus, les moins, les bons restos, les bonnes adresses, les bons quartiers, des lignes de bus aussi. Il t'arrive des dingueries, genre hier on est parti dans le mauvais sens, on a perdu 45 minutes, enfin bref.
Genre le routard, mais des salons pop culture asiatique.
Ouais, c'est ça. Okay. Ça c'est une cible à proposer à un éditeur, c'est vraiment très restreint.
C'est
donc je pense
très,
que...
très restreint.
Qui est une quelconque utilité. Mais
Parce que toi, on va te présenter, c'est aussi le but, parce que t'es un acteur de l'ombre un peu.
Ouais.
Du manga, mais ça fait longtemps quand même que t'évolues dedans.
Ouais.
Et donc, ma première question qui va être assez classique, c'est Thibaut, d'où viens-tu ?
Oula, c'est marrant, tu sais, quand on me demande ça en salon, y a des gens qui viennent, des jeunes, des moins jeunes, qui me demandent comment faire ce que je fais. Tout part, on parlait de dossiers un peu comme ça, là. Tout part d'une soirée très arrosée à Nantes, puisque je vis à Nantes,
ouais.
Pendant le Festival des Utopiales, qui est un festival que j'adore, qui mélange à la fois les sciences dures et les science-fiction.
Okay.
Et comment l'un inspire l'autre, inversement, comment est-ce que la science-fiction a vu des choses qu'on a découvert après avec la science. Et en fait, à cette édition-là, il y avait un truc incroyable, c'est qu'Alan Moore était là. Alan Moore, c'est un mec qui se déplace plus depuis des années. Donc pour ceux qui ne l'ont pas, Alan Moore, c'est Watchmen, c'est les récits de Batman qui sont incroyables, c'est beaucoup, beaucoup de choses. Et donc Urban Comics, qui venait de se lancer à l'époque, vu pour Vendetta aussi, pardon, avait son directeur éditorial qui était là, qui est un Breton pure souche,
ouais.
François. Et je fais la rencontre de ce monsieur via mon groupe de potes de l'époque, qui sont tout la core team de Comics Blog, qui aujourd'hui, il n'y a plus personne de cette époque-là qui travaille sur Comics Blog. Mais je rencontre François comme ça, et on se met une tête... comme ça.
Comics Blog, ça devait être 2015-2017, un truc comme ça.
J'ai plus les dates en tête, c'est tellement flou, je t'avoue. Okay. J'ai laissé tellement d'années d'espérance de vie, de beaucoup de choses, beaucoup d'écarts, beaucoup d'excès, beaucoup de très belles découvertes et un monde que je connaissais pas du tout, parce que moi à l'époque, je t'avoue, la pop culture, je la consommais comme n'importe qui.
Ouais.
Et quand j'ai rencontré ces mecs-là passionnants, qui vraiment m'ont fait plonger dedans, et je découvrais des nouveaux univers tous les jours, des trucs plus immenses les uns que les autres, parce que c'était très comics en plus à l'époque. Après, il y a eu l'ouverture sur les deux autres sites qu'on avait. C'était dans ces eaux-là, je pense que ça devait être c'est simple parce que c'est comme ça que découlent mes premiers salons et ça fait plus de 10 ans que je fais des salons. Donc ça doit être 2012, okay. 2013 peut-être. Faut regarder l'invitation d'Alan Moore.
Ah, moi j'ai mis 2015-2017 sur ton LinkedIn. Il y avait cette info.
Ah oui, alors ça c'est quand j'y bossais.
Ah, quand tu bossais, mais tu les rencontres avant.
Je réinvitais autour avant. En fait, je rencontre Sullivan Rowe, donc directeur éditorial de Mangetsu
Iconic, ouais.
Et tout ça. Dans une boutique de jeux vidéo rétro dans laquelle je faisais des dépannages avec le type qui était là, qui lui en fait avait senti le coup du rétro avant que ce soit la grosse mode, okay. Du rétro. Et moi je suis à la fac à ce moment-là, je suis un branleur, je joue beaucoup aux jeux vidéo, et en fait je trouve un deal avec lui, c'est que je fais des jeux vidéo la nuit que lui n'a pas le temps de faire et je reviens le lendemain avec un pitch de vente, comme ça il peut les vendre.
C'est
un,
okay.
Des meilleurs vendeurs que j'ai pu connaître, qui m'a formé en vente, mec, il te vendrait ta propre mère, si tu veux. Donc, c'est quand même un délire de, une tchatche incroyable, un accent du sud. Enfin, il lâche rien, quoi. Et, donc, le deal, c'était ça, c'est que la nuit, je me butais sur des jeux que je terminais dans la nuit, je revenais le lendemain, je changeais de jeu, et du coup, je lui filais un argumentaire de vente.
Donc, tu faisais des genres de piges?
Mais pour la vente.
Ouais, pour la vente, ouais. Ah, et mon taf, c'était, je t'ai pas payé, tu vois, mais mon taf, c'était du coup de d'éclater un jeu dans une nuit. Et donc à la fin, j'étais joueur Xbox 360 à l'époque.
Ok.
À la fin, c'était le rituel de d'éclater un jeu dans la nuit. Et les jeux un peu longs commençaient à me saouler à ce moment-là, parce que quand tu le torchais pas en 10-12 heures, la session déjà de jouer non-stop pendant 10 heures, fallait l'encaisser. Mais il y a certains jeux que je prenais pas, genre les RPG Jap, tu vois, je les prenais pas, parce que je savais que dans la nuit, je serais à peine à la fin de l'intro. Donc c'était compliqué. Oh, mais j'ai fait beaucoup de jeux comme ça, et des bouses, hein. J'ai fait des trucs franchement c'était terrible, mais c'était un premier pas, moi, dans un monde que je convoitais, tu sais, t'es gamin, tu joues aux jeux vidéo, tu te dis toujours, enfin mes parents me disaient, c'est pas un secteur où tu feras ta vie, tu vois.
Clairement.
Donc pense au futur, pense à autre chose, et là je commençais à entrevoir un truc de, en fait il y a peut-être tu vois, peut-être l'occasion de ça, quoi. Et donc je rencontre Sylvain dans cette boutique un jour, qui me dit, viens mec, on va boire des bières un soir. Et on commence à tchatcher comme ça. Et donc par rebond, un soir je rencontre François Hercouet. Donc on se met cette grande tête, on passera les détails. Et il finit par prendre mon contact. Et moi à l'époque je faisais déjà des salons, puisque dans la boutique de rétro dont je viens de te parler, je rencontre un mec qui fait des salons, mais lui il vend des produits dérivés, des figurines, des genres de trucs. Et il cherche un vendeur pour le Japan Expo.
Ok. Donc tu deviens vendeur les week-ends.
Les week-ends pour partir en salon, je commence les conventions comme ça. Et je vends de la figurine, de produits, enfin de séries que je connais pas, puisque c'est tout un lore japonais que j'ai pas du tout. Moi, le manga, je m'y suis
mis très
tard.
T'étais pas du tout manga
Mon premier manga, j'ai dû l'avoir, j'étais en seconde.
Ok.
J'ai pas grandi avec Dragon Ball, j'ai pas grandi avec tous ces trucs-là. Il y a beaucoup de trucs que j'ai eu sur le tard.
Tu sais, t'es en train de créer de la diversité dans les parcours des personnes que j'ai pu recevoir.
Ok.
Parce que généralement, il y a quand même un pattern, tu vois. J'ai grandi avec les mangas, je dessine depuis toujours, des choses comme ça. Mais toi, du coup, t'étais loin de ce
Moi,
ce
pas
truc-là.
Du tout. Okay. Moi, pas du tout. Et je lisais très peu. C'est mon frère qui lisait beaucoup de BD. On avait pas mal de BD. Aux anniversaires, c'est de la BD aussi qu'on recevait. Lui, il se vautrait dedans et il passait des journées, des après-midi à les lire. Moi, c'était pas du tout mon cas. Ma première vraie passion, c'est la musique, et ça reste la musique, qui au fur et à mesure des années s'est ouverte et a pris plein d'autres formes. Mais je me suis mis en manga, ouais, très tard, et la lecture BD comics très tard aussi, tu vois. Ça a été vraiment, j'étais parti de chez mes parents, quoi.
Et c'est quoi ton premier manga?
Mon premier manga, c'était j'ai récupéré c'était le tome 1 de GTO, je crois, ou Auchan de Charleville-Mézières.
Ça, GTO, c'est
GTO, ouais, c'était cool. C'est en fait, ça découlait de, parce que je voyais passer l'animé sur Canal à l'époque,
forcément,
et je voulais commencer à les lire. Et ça a été ça, mais la première série que j'ai lue, c'était un espèce de manois qui s'appelait Metal Brain, si j'ai pas de bêtises, un truc en 3 tomes, qui était, j'ai oublié le nom de l'éditeur, mais je crois que c'était un truc qui avait été racheté par KZF. Enfin,
donc ça me parle pas, mais
mais pour le coup, j'en garde un bon souvenir, tu vois, j'aimerais bien le relire.
Okay.
C'était un bouquin que j'avais récupéré chez Noz, puisque ma mère faisait beaucoup Noz. Noz, c'est solderie qui récupère des soit des fonds de stock qui sont en arrêt de com,
okay,
soit des trucs dégâts incendiaires, et ils récupèrent des lots, ils brattent ça, tu vois. Et il y a de tout, hein, tu peux trouver des mangas, comme tu peux trouver de la bouffe, comme tu peux trouver plein de choses, et j'adore trouver ce que je cherche pas, donc j'allais souvent dans ces trucs là avec ma daronne, et il y avait des mangas, et c'est des mangas pas chers, et tu vois, c'était la porte de faire passer que t'as vu, c'est pas cher, laisse-moi des mangas, s'il te plaît. Et du coup j'ai commencé comme ça, et c'était chouette.
Donc là, premier pas dans le manga,
ouais,
premier pas dans l'univers des salons, on le dit vers 2013-2014.
Ouais, à peu près.
À peu près.
2000, bah, c'est facile. J'arrive à Nantes en 2010. Je commence mes salons quasiment la même année, donc 2011.
Ok.
Ouais.
Et de base, t'es breton?
Pas du tout.
Okay.
Moi, je suis palois, donc de Pau.
Ok. Du sud-ouest.
J'ai un père militaire, donc j'ai beaucoup déménagé.
La classique, tous les 3 ans.
Moi, pour le coup, j'écoutais ce que Johan, il disait. Lui, pour le coup, c'est que ses parents, ils avaient l'air d'être ce qu'on appelle, comment on appelait ça? Enfin, bref, ils faisaient en dehors du territoire français. Moi, je suis vraiment resté en France tout le temps.
Ok. Mais tu déménageais quand même.
Je déménageais régulièrement. À 6 mois, j'ai mon premier déménagement. Je suis né à Pau, mais au bout de 6 mois, je suis parti vivre à Sarrebourg, qui est un bled dans l'est de la France. Je suis revenu à Pau après pour faire la rentrée de mon primaire, donc j'avais 6-7 ans, quoi. Et je suis reparti après, quand j'étais en 4e, je suis parti à Verdun pendant 3 ans.
Okay.
Je repars, je suis en seconde, et mon lycée, je le fais à 3 endroits différents de la France, c'est-à-dire que je fais Verdun, qui est là. Je redescends à Pau pour faire ma première, et ma terminale, je l'ai fait au Sable d'Olonne avant de partir l'année d'après, du coup, à Nantes pour mes études.
Ah ouais, donc tu connais la France.
Je bougeais pas mal. Ouais. Okay. C'est pour ça que le rythme des salons me dérange pas non plus, puisque j'ai toujours pris cette habitude de bouger. Je trouve qu'il y a un truc très sain dans le fait de déménager, qui est tu laisses plein de choses qui te traînent derrière toi pour repartir avec ce que t'es vraiment.
Tu repars à zéro un peu.
Tu repars un peu à zéro, mais pas vraiment, puisque t'as quand même changé, tu vois.
Oui, ça, mais t'es plus attaché par les gens, peut-être la vision que les gens ont de toi, l'image, etc.
Les habitudes, ton confort, ton truc, tu fous tout par terre et tu fais, vas-y, je recommence.
Okay.
Et ça, c'est très sain.
Ok, ça marche. Quand tu rentres dans les salons,
ouais,
dans l'univers, parce que forcément, on va parler de ton parcours, on va essayer de l'orienter quand même sur l'aspect manga, parce que c'est sur le sujet du podcast. Tu commences les salons, t'es pas forcément Tu vends pas du manga directement?
Non.
Tu vends des figurines?
Je vends des figurines, oui.
Ok.
Je vends des figurines et c'est cette rencontre, du coup, avec François qui, à l'époque, lançait Urban Comics. Et Urban Comics étant dans le même groupe que Kana, donc Média Participation, où il y a énormément d'éditeurs.
Il y a tellement de choses dans Média.
Il y a tellement de choses. Et donc là, c'était Batman qui arrivait, sachant que faut savoir qu'avant l'arrivée d'Urban, c'était Panini qui avait tout, qui avait Marvel et DC. Et c'était un peu foutu n'importe comment. Si tu voulais lire des trucs, c'était un peu le bordel. Et Urban, ils arrivent avec une charte graphique de ouf. Avec les dos noirs là qui étaient vraiment trop bien à l'époque, qui changeaient complètement les la phase des comics en fait chez Tom Libar, et qui commence à structurer vraiment un truc de tu veux lire Batman, on va t'expliquer comment ça se passe, c'est comme ça comme ça comme ça comme ça, il commence à sortir plein de trucs, et c'était vraiment du coup le début de d'Urban en France, et donc ils font des salons à ce moment-là. Et comme moi je faisais déjà des salons, je glisse à François que je serais ravi de, s'il le faut, tu vois, de bosser pour Urban, parce que moi Batman c'est un de mes héros préférés, parce que le dessin animé
tout simplement
la série animée, et puis ce côté le mec il est humain et il a ses démons et il se débrouille autour de mecs qui sont bien trop violents pour lui, c'est un truc qui m'a toujours un peu parlé, et du coup je lui glisse ça, mais dans un état on parle d'un taux d'alcoolémie qui était assez avancé, où lui prend mon numéro, je lui dis viens je te le note pour être sûr que c'est soit bon, il me fait non t'inquiète je le fais, je te recontacterai et tout, et je me dis waouh, ça sent quand même le coup d'épée dans l'eau quoi. Et je reçois un texto un jour qui me dit hey mec, pour Angoulême genre 2 semaines ou 3 semaines avant Angoulême, est-ce que tu veux pas venir bosser avec nous, par contre on prend pas en charge ton logement et on te paye en bouquin. Je vois, c'est quand même raide, c'est
attends. Et là il t'a proposé de venir très gratuitement, en gros,
en mode stagiaire si tu veux, c'est pour l'événement, comme c'est à l'arrache. C'est lui qui m'a proposé ça. Je pense que la structure Urban après lui aurait dit calmos quand même. Je l'ai pas fait de toute manière, par manque de moyens, parce que la semaine d'Angoulême juste c'est trop cher,
c'est très cher,
et puis de toute manière c'est pas les standards, donc je pense que ce serait jamais passé quand c'est réalisé par quelqu'un en interne. Il aurait dit t'es mignon, t'es directeur édito, mais c'est pas comme ça que ça marche en événementiel. et ça aurait été recadré, mais du coup il me fait il s'excuse en me disant que c'était vraiment un peu trop à l'arrache, mais qu'il pense bien à moi pour un autre truc après, qui était le Salon du Livre de Paris. Le Salon du Livre de Paris, c'est un stand commun en fait entre Dargaud Dupuis le Lombard et Urban à ce moment-là, du coup, qui se lance. Et du coup, moi je suis affecté à la partie d'Urban sur ce stand. Donc là, c'est bon, je suis défrayé, je suis logé, nourri et je suis payé. Donc ce qui devait être en fait.
Ce qui était normal.
Je commence comme ça. Et en fait, je bosse sur le stand avec une nana qui, elle, chapeaute le stand en tant que prestataire, tu vois, histoire de dire j'ai mes équipes, j'ai mes libraires, j'ai mes trucs, ce que je fais aujourd'hui, grosso modo. Et elle s'occupe aussi des salons Cana à ce moment-là. Et après le salon, du coup, elle vient me voir, elle me fait ok, ça s'est bien passé, est-ce que tu veux bosser sur le Japan en charge du monde? Je suis carrément. Par contre, le manga, moi, vraiment, catalogue Cana, je ne vois pas trop.
Pas trop lu de manga.
Donc, au milieu, dans l'intervalle, donc, le Sandiv, c'était en mars, Japan, c'est en juillet. Je fais toutes les librairies d'occasion que je croise, parce que, à l'époque, j'ai pas vraiment de thunes, tu vois. Je récupère tous les trucs Cana que je croise en me disant, ok, ça va m'être utile. En fait, je récupère plein de séries qui sont des trucs qui déjà ne sont plus d'actualité.
Ils se vendent même plus.
Ils se vendent même plus, genre Monju et ce genre de trucs, tu vois, qui est très bien d'ailleurs, mais c'est plus du tout sur les linéaires, quoi. Il m'envoie quand même un carton de SP avant en me disant ok, les comptes sortis c'est ça, donc tu peux lire ça, et je rentre là-dedans comme ça, du coup à ce moment-là.
Tu connaissais au moins les bases avec l'actualité?
Ouais, quand même, parce que j'arrive, je suis stressé de ouf et j'aime pas ne pas faire le taf pour lequel t'es payé, donc je me mets une petite pression tranquille, je commence à découvrir le truc. C'est d'autres argumentaires de vente aussi, puisque tu vends pas du bouquin comme tu vends n'importe quoi.
Et là ils font quoi? Ils te font un contrat ou?
Ouais, c'est les contrats à la mission, c'est du CDD pour la durée du salon, et je commence comme ça en petite main. Et à l'époque ils font beaucoup moins de salons que ça.
C'était moins la mode
aussi, complètement. Le marché appelait pas ça, donc c'était comme ça. Et je fais Japan, du coup ça se passe bien, et après je dois refaire une deuxième ou troisième Japan avec eux, je pense. Et après je pars chez Comics Blog, du coup, et en fait c'était pas possible d'être à la fois du côté journaliste et à la fois d'être un mec qui bosse en salon pour un éditeur. Je trouvais qu'il y avait un truc mental et moral qui marchait pas, en fait.
Pourquoi? Parce que
t'es biaisé, ouais, en fait, dans le traitement après au quotidien. Ça voudrait dire que avec Kana j'ai une relation particulière, et notamment les bouquins, est-ce que je vais pas plus les foutre en avant par rapport à d'autres, est-ce que je vais pas, tu vois, tout ça. Et puis surtout j'avais pas le temps, parce que chez Comics, enfin le groupe s'appelait Arts,
j'ai fait beaucoup de choses chez Arts,
j'ai fait beaucoup de choses. J'avais le temps de rien. Du coup, je fais les salons aussi à l'époque, mais en tant que journaliste, pour faire de l'interview, pour faire des rencontres.
Et ça, tu faisais même podcast.
Podcast aussi, ouais. Les podcasts, c'était un par semaine podcast. Ça faisait 3 heures et quelques à chaque fois. Plus les sorties ciné, parce que on allait au cinéma, on matait le film, on rentrait à la rédac, on bouffait un bout, et après on enregistrait un podcast qui durait quasiment la durée du film. Donc tu te couches à 3 ou 4 heures du matin, attaquer le lendemain à 10 heures, et ça toute la semaine, et en boucle toute l'année.
Et tu faisais aussi un podcast sur Star Wars, non?
Alors j'ai parti participé vite fait. En fait, on avait trois sites. On avait Comicsblog sur l'actualité comics américain, français, et surtout en fait qui a décollé avec l'arrivée du MCU et tous les films Marvel, DC et la mode des adaptations des super-héros. Ça a pris un gros essor et c'était le plus gros site. On en avait un autre à côté qui s'appelait 9e art.fr qui était sur tout le marché français de la BD
bien sûr, 9e art.
Et Sci Fantasy qui était un peu celui où on s'éclatait le plus puisque c'était celui qui était le plus libre dans le sens où c'était les mondes de l'imaginaire. Donc les mondes de l'imaginaire, ça peut être à la fois roman, jeux vidéo, série, film, ce que tu veux. Et il y avait les gars à la rédac, c'était des BZ de Star Wars, notamment République, un autre Thibaut Clotel que j'aime beaucoup et que je salue si jamais il passe par là. C'est en termes de theory crafting avec Sullivan, avec Alex Lecoq, avec tous les autres gars, vraiment toute la journée à la rédac, ça parlait non-stop de ça, à imaginer des plans sur la lune, à faire des podcasts de ouais, il y a ce truc là, à vraiment dans l'analyse.
Que de la théorie,
du theory crafting, ils adoraient ça. Moi j'aime bien ça, il y a pas de souci, mais très vite c'est très pointu. Puis dans la charge de travail que j'avais, me rajouter le soir des enregistrements de podcasts méga longs, alors que moi je m'occupais de l'aspect financier de la boîte. Je vendais des espaces pubs qui faisaient qu'on bouffait ou non. Je n'apprends pas que le fait d'être indépendant dans la presse, c'est compliqué quand même. Donc j'ai fait mon burn-out tranquille chez Arts. Je suis reparti avec les cernes jusqu'ici.
C'est vrai?
Bien sûr.
Ça t'a tué?
Ah, ça m'a buté, mais pour rien au monde je ferais différemment. L'expérience elle était folle, le fait de bosser avec tes potes c'est très bien. Ça m'a appris aussi que bosser avec tes potes ça peut être très compliqué aussi. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris sur le tard. Je faisais tout ce qui était gestion aussi prévisionnelle et compagnie. Enfin, je te passe les détails de tout ce qui est aspect financier, de changement de boîte, de propriétaire, de rachat d'actions et tout ça. Enfin, il y a plein de
trucs. T'as géré tout ça?
Il y a un moment où j'ai géré l'aspect financier total du truc quand Sullivan a commencé à se détacher un peu de tout ça. Que lui il est parti faire iComics. Moi j'ai récupéré tout ce qui était aspect financier et les prévisionnels et la gestion de la boîte quoi. Et c'est là où j'ai fini par me cramer au vol.
Salement. Tu faisais les stands en plus, non?
Non, on avait je faisais pas les salons à ce moment-là, non. Non, là c'était full dédié à ça, mais 24 heures sur 24, obligé de continuer à lire les trucs qui sortent. T'as un flanc de consommation qui était plus sain, je trouve.
Ouais. Où tu lis pas par plaisir et parce que t'aimes l'histoire, mais parce que tu dois.
Comme les libraires, hein. Franchement, les libraires, faut le dire, à un moment donné, c'est le taf le plus ingrat du monde, parce qu'entre tes 35 heures de travail à la semaine, t'as 20 heures de lecture minimum pour pouvoir lire tout ce qui sort. Et c'est pas les trucs qui correspondent à tes goûts forcément.
Ouais, c'est ça.
Et t'as jamais le temps de lire des séries qui sont.
Mais faut être capable d'en parler.
En plus de ça, ouais. Mais c'est ça le truc, c'est le jeu vicieux, mais c'est tellement ingrat pour ça. Et il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte de ce que ça représente le taf de libraire et qui pensent que c'est un truc facile parce que tu viens parler des mangas que t'aimes bien. Sauf que t'en connais 10, il y a 450 références.
Exact.
Donc va te taper les autres bouquins qu'il y a derrière et tu vas voir ce que c'est que.
C'est ça, tu vois. Moi, je suis assez proche de la librairie Tsukimi à Lyon. Et tu vois, c'est deux frères. Et eux, ils se partagent la part en deux. Genre ils vont pas lire les deux la même chose.
Ah oui, bien sûr, mais de toute manière c'est le jeu entre libraires. J'ai fait quelques renforts en librairie parce que j'adore ça en fait, faire des conseils genre à Noël, c'est tellement facile. Bonjour, j'ai cherché un cadeau, tiens prends ça. c'est un truc que j'aime beaucoup, mais je le faisais qu'en renfort parce que je voulais pas avoir à lire des bouquins au quotidien. Et je voyais mes autres collègues qui eux se séparaient un peu les lectures, et quand il y en a un qui repère un truc qui est un peu cool ou qui sait qui pourrait plaire à son collègue, il va lui glisser, tu vois, après, tiens, faudrait que tu lises ça. Il y a un premier travail de curation qui est fait à ce moment-là, qui est nécessaire et obligatoire en vrai quand tu vois la prod aujourd'hui. Et encore, que spé manga. Imagine les mecs qui font BD, comics, manga. Laisse tomber. Mystérieuse librairie à Nantes. J'ai un amour éternel pour eux, mais ils ont un rythme de travail. Je n'en vis pas leur quotidien, très clairement, tu vois.
C'est ça. C'est pour ça, les petites librairies, t'as aussi ce côté où, t'as moins de références.
Mais au moins, c'est les trucs que tu connais, c'est pointu. Voilà, mais après, c'est un modèle économique, il faut pouvoir aussi l'assumer, quoi.
Exactement.
C'est aussi ça.
Ok. Donc là, tu fais tranquillement ton petit burn-out. On fatigue tranquillement, tout se passe bien. Et du coup, tu changes d'endroit.
Du coup, je change d'endroit, ouais. Je change d'endroit. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Je crois que je fais un BTS en alternance, si je dis pas de... Non, ça, c'est après mon burn-out. Qu'est-ce que je fais après? Je vais au Geekstore, non?
Moi, j'ai 2012-2019, tu travaillais en librairie sur les salons. Mediapart.
Je reprends en fait à ce moment-là de faire des salons, je réactive les réseaux et je bosse dans une boutique qui s'appelle Geekstore à Nantes pendant 9 mois.
Okay.
C'est un enfer parce que c'est des mecs qui t'expliquent comment travailler alors qu'ils foutent rien et je déteste ça, tu vois. Le mec qui vient t'expliquer, attends, c'est comme ça que tu vas faire. Mec, t'es pas en boutique, tu sais pas ce que c'est d'attendre 8 heures, un putain de client. Viens pas m'expliquer comment on doit bosser et qui font rien pour que tu puisses travailler pour pouvoir faire de l'argent, genre de la préco pour tes clients. Non, faut que ce soit content. Enfin, plein de trucs qui font péter un plomb déjà à ce moment-là et je me rends compte qu'en fait, je peux plus bosser pour quelqu'un d'autre et que j'ai envie de bosser pour
Ouais, sur ça, tu restes que 8 mois, je crois, là-bas.
Ouais, je suis 8, 9 mois. J'ai relu beaucoup de choses là-bas. Beaucoup de bouquins. Et là, je redécouvre le plaisir de la lecture parce qu'en fait, je relis pour moi à ce moment-là. Je me refais les Berserk, je me refais des grandes sagas comme ça qui me redonnent un peu le goût de la lecture, quoi. Parce que j'avais vraiment perdu à la fin chez Art.
Ah ouais, ouais,
Mec, je lisais constamment. J'allais au boulot à pied, je lisais en marchant, je lisais en y allant, je lisais en revenant, je lisais le soir. Je lis beaucoup encore aujourd'hui, mais pas pour les mêmes raisons, tu vois.
C'est pour ça, tu vois, moi, je suis content avec ce podcast-là. C'est que j'ai pas, j'ai pas besoin de lire les choses à part si c'est un auteur qui a fait un manga, mais le marché manga français c'est assez jeune et du coup il y aurait Renaud à la rigueur qui a plus de 20 tomes, Tony, etc. Mais sinon c'est 3-4 tomes, ça va,
c'est tranquille, ça se fait. Le 3-4 tomes c'est ce qu'il fallait lire par jour des fois, tu les enchaînes, t'as même pas le temps de les savourer, t'as même plus cette phase, tu sais, où une fois que t'as fini un bouquin t'as le temps de la digérer, de te poser
et te dire et puis d'attendre la suite, t'as même pas ce truc là où t'es j'ai hâte de voir la suite.
Non, tu la verras jamais puisqu'en fait c'est un tome 1 et tu dois lire un autre tome 1 après, et que voilà, donc
terrible. Du coup tu parles de ça et c'est à ce moment là que tu te mets en indé?
Ouais, en fait, avec un copain, c'est juste avant le Covid, un copain avec qui j'ai fait beaucoup de salons, Victor, que j'aime beaucoup aussi.
Big up à Victor.
c'est à ce moment, nous on faisait déjà beaucoup de salons ensemble, à ce moment là on en fait beaucoup à l'année, on fait en contrat à ce moment là pas encore en auto-entrepreneur, et on se pose la question à un moment de c'est quoi le plan dans la vie pour avoir suffisamment d'argent pour survivre, on veut pas gagner des milliers de cents, tu vois, juste pouvoir bouffer et avoir du temps libre à côté pour chercher à s'émanciper soi, et trouver vraiment ce qui fait que ça t'anime au quotidien, tu vois. On se dit les salons c'est quand même un truc qu'il faudrait creuser, tu vois, parce que y a un potentiel, en mettant bout à bout tous les salons dans l'année avec les droits au chômage, comme c'était des CDD à chaque fois, tu cumulais en fait un peu de droits malgré tout, avec des taux horaires qui étaient plutôt intéressants en plus pour le chômage, donc très vite tu pouvais avoir sur une année des payes à droite à gauche, puis le chômage qui prenait le bout après derrière, et t'arrivais à bouffer, tu vois. Et donc du coup on se dit vas-y, on fait ça, on commence à creuser dedans, s'investit dedans, et bon, on se rend compte que les phases de temps libre, finalement t'es tellement explosé de fatigue, et moi à l'époque en plus tous les deux on avait une hygiène de vie qui était
compliquée,
bien destroy, donc c'était
t'aimes faire la fête?
J'aimais faire la fête, j'aime toujours faire la fête, mais différemment.
Ok.
C'est-à-dire qu'avant, je me mettais la gueule, plus que de raison, dès que je commençais à picoler. Aujourd'hui, j'ai un rapport qui a changé avec ça.
Okay.
C'est l'âge, hein. Il y a un moment quand tu picoles et que le lendemain, t'as les aigreurs d'estomac toute la journée, que t'es incapable de bosser. C'est les excès, tu les payes à un moment donné.
Du coup, on réduit un peu.
Du coup, tu réduis la voilure et t'apprends qu'en fait, t'as pas besoin de te mettre ta gueule pour passer une bonne soirée, t'apprends tout ça, tu vois, mais c'est beaucoup de choses qu'il faut déconstruire. C'est le passage, c'est de quand t'es un jeune adolescent, tu deviens étudiant, il y a ce que tu penses que tu dois être et il y a ce que t'es vraiment, et en fait ce truc là il va s'effacer au fur et à mesure, et après tu captes qui t'es vraiment, et là tu fais ok, en fait j'ai besoin de ça, mes démons c'est ça, et il faut réussir à accepter tout ce merdier pour jouer avec
t'aimes,
les cartes.
T'aimes bien tous ces trucs un peu d'introspection et tout, et de se comprendre.
Ouais,
c'est un truc qui t'intéresse.
C'est un truc qui m'anime tous les jours, trop sûrement, tu vois, parce que je pense que je tourne un peu en boucle sur certaines problématiques de ma vie. Mais qui moi me semble essentiel si tu veux vivre pleinement ce que tu fais. Il y a trop de gens autour de moi que je trouve dommage, alors dommage de mon point de vue, dans leur vie peut-être qu'ils sont heureux et c'est un jugement qui a aucune valeur du coup,
mais tu dis qu'il y a un moment
ils ont arrêté le chemin, tu vois, ils ont fait un choix de dire que finalement les problèmes c'était pas leur problème, c'était la faute des autres, et qu'en fait il y a rien qui évoluera tant que ce sera la faute des autres. Et par A plus B, ça a été prouvé partout qu'en fait, non, il faut se remettre en question, changer ta perspective, changer ton paradigme, changer plein de trucs.
C'est qu'on m'a sorti une expression il y a pas longtemps, c'est que, vraiment, c'était hier en plus, quand tu pointes quelqu'un du doigt, rappelle-toi que t'en as trois qui pointent vers toi.
Ah, malin ça. Je la connaissais pas, c'est pas mal.
J'étais en mode, ah putain, il y a du vrai, tu vois.
Ouais, complètement. Ouais, c'est souvent ça, tu projettes chez les autres ce qui va pas chez toi, hein, et j'ai trop été blessé par des gens comme ça, tu vois, qui sont enfermés ou qui arrivent pas à gérer leurs émotions, ou qui tout ça. Et je pense que je suis très empathique, et du coup c'est des choses que je veux pas reproduire, parce que je l'ai déjà vécu, donc c'est un truc tout con, mais si tu veux arrêter un cycle de violence, il y a un moment quelqu'un doit arrêter, tu vois. c'est juste ça, et faut inverser la tendance, et moi ça me dérange pas de le faire, au contraire je me sens plus à l'aise de le faire plutôt que de reproduire un schéma de violence constant, parce que moi on m'a tapé, je vais te taper, tu vois, c'est trop con.
Je comprends. Non, mais je te rejoins assez sur ça. On reprend au moment où tu disais finalement faire que des CDD. En fait, quand t'arrêtes de travailler, ok, t'as du temps libre, mais tu dors.
Mais je fais rien.
L'énergie pour aller chercher ce que t'as envie de faire aussi, tout ça.
J'arrive pas à me confronter à qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, qu'est-ce qui m'anime vraiment. Et en fait, sans avoir vraiment de moyens, tu peux pas investir. Je sais pas, on en parlait avant le début de cet enregistrement, ça coûte de l'argent de faire des podcasts, c'est du matos, c'est des machins. Et si t'arrives pas à avoir des fonds suffisants pour pouvoir investir dans autre chose pour toi en perso, tu fais que subsister pendant un moment, quoi. Donc là, on se dit que ce serait quand même bien de pousser un peu plus le truc. Kana nous dit qu'en plus ce serait plus simple plutôt que de faire des contrats à chaque fois qui passent par les RH, par les machins, par les trucs, bah qu'on ait juste une facture à sortir en auto-entrepreneur à la fin, en compensation, bah on est mieux payé parce que bah t'as plus d'assurance chômage, j'ai plus les charges
patronales, t'as eu ça à payer que machin.
Donc au début un peu comme ça, puisque je me dis ok, en fait si je fais ça, ok, j'ai des droits au chômage, je me donne 2 ans et on y va quoi. Donc on crée nos structures chacun dans nos coins, enfin en auto-entrepreneur ouais. Donc, à notre nom en octobre, et en mars il y a le Covid qui arrive, tout est fermé. Moi je suis sur un salon en février de Japan Tour, quand c'était encore en février avant qu'ils décalent à juillet,
ouais.
Où ça y est, ils mettent les normes et les jauges le dimanche à l'ouverture. Et en fait, le dimanche, on me dit, c'est 5000 personnes max dans le hall, sachant qu'entre les exposants, le staff, les bénévoles et machin, il y a déjà 1500 personnes qui sont bloquées et ça va être au compte-gouttes et ça commence à être la panique et tout le monde commence à se regarder en mode, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Est-ce que bah, le futur de l'activité, c'est quoi? Blablabla. Stand-by pendant 2 ans, hein, 1 an et demi, 2 ans.
Oh merde.
Où là, non, on a vraiment eu de la chance. Les conséquences, enfin les raisons de pourquoi est-ce qu'il y a de l'inflation aujourd'hui, j'en ai profité, hein, on va pas se mentir. Ouais. Le quoi qu'il en coûte de Macron de balancer de l'argent par les fenêtres, nous on avait juste à déclarer le chiffre d'affaires moyen qu'on avait fait jusqu'à là et on touchait ça. En plus de l'assurance chômage, c'était stupide, j'ai jamais touché autant d'argent qu'au moment où je faisais rien.
C'est vrai?
Parce qu'en fait c'était cumulable et je touchais et le chômage et les aides pour l'auto-entrepreneuriat. C'était hyper con, t'avais juste à rentrer combien tu voulais, ils te demandaient 0 justificatif. Je pense qu'il y a eu des abus de ouf, c'est sûr.
Ouais.
Je rentrais plein de thunes dans une situation où je me dis que
Et tu dépensais rien?
Je dépensais rien et du coup, le futur, je me dis, est-ce que je continue ça là-dedans ou non? Est-ce que oui, non, oui, tu vois, enfin, plein de questions que tout le monde s'est posé à ce moment-là. Et du coup, ça finit par reprendre et je reprends quand même les salons à ce moment-là. Entre temps, je vais quand même bosser en centrale d'achat d'un réseau de librairies de Nantes pour juste faire quelque chose en fait, parce que j'en ai marre de tourner en rond chez moi. J'ai besoin de me bouger.
T'as fait le tour des Berserk?
J'ai fait le tour des Berserk, c'est bon. À l'époque, la pile de lecture, elle a fondu comme jamais pendant le Covid. J'aimerais bien un deuxième Covid parce que la pile de lecture, elle fait vraiment la gueule. Mais du coup, je me bouge histoire de faire quelque chose quoi. Et je m'impose en plus un truc de fou, c'est que je vais bosser à un endroit qui est vraiment en dehors de Nantes. Il me faut 1 heure pour y aller, où je prends un quart d'heure de marche, un quart d'heure de train, un quart d'heure de bus et un quart d'heure de marche dans la campagne. En me disant, je m'inflige ça parce que je suis un trou de balle, j'ai toujours pas le permis, ça va me forcer à passer le permis. On est trois ans plus tard, j'ai toujours pas passé le permis.
Mais c'était sûr, en fait.
C'était sûr. Mais il me fallait un truc à base de, vas-y, je me bouge, tu vois, au moins je fais quelque chose. Parce que j'en peux plus de tourner en rond, quoi. Et ça m'a fait du bien parce qu'en plus, c'était table de manutention. Donc, c'est pareil. Moi, ça me permettait aussi de fixer ce que je ne voulais plus faire.
Tu te retrouves quand tu fais des tafs comme ça. T'as regardé Peaky Blinders?
Ouais.
Tu vois, à un moment donné, dans la saison 4 ou un truc comme ça, Tommy Shelby, il retourne à la ferme et il remet le foin dans le truc et il dit, c'est pour me rappeler un peu ce que je veux pas faire et tout.
Ouais, bien sûr.
Et
ben
je trouve que quand tu fais des tafs comme ça, tu vois, qui sont durs parce que c'est bête et méchant, tu vois. Tu te dis, ah ouais, putain, c'est vrai que je veux pas faire ça.
C'est ça. C'est ce que je disais avant, c'est ce que t'aimes, ce que t'aimes pas faire et faut se battre, du coup, pour défendre ce que t'as envie de faire. Il y a plein de gens, ils ont pas l'occasion de se battre ou pas les moyens ou juste ils sont bloqués dans des situations perso et plein d'enlises et eux ils subissent du coup ça et c'est une force mentale que je respecte tellement. Mais moi pour le coup j'ai la chance de pouvoir me dire ok, j'ai quand même mon truc à jouer, c'est moi-même, tu vois.
Ouais.
J'ai pas de famille, j'ai pas tous ces trucs là qui enfin j'ai de la famille,
hein. Oui, mais t'as pas de charge.
J'ai pas de charge, je suis à charge de personne et j'ai personne à charge, donc si je veux me mettre en péril et si je veux bouffer comme je l'ai fait fut un temps, je mangeais la pizza à 2,19 de chez Monoprix la moitié le midi la moitié le soir pour pouvoir continuer dans la voie où je voulais aller, je le fais, tu vois. Et puis c'est mon confort de vie à moi, juste j'enlise personne avec moi, c'est moi avec moi-même.
Tu pénalises personne.
Voilà, exactement. Donc je fais ce truc là, c'est pareil, je fais ça 6 mois je crois. Puis après, si je dis pas de conneries, je reprends les salons et là je commence à avoir plus la main, parce que avant le Covid, donc je commence à récupérer d'autres fonctions, on va dire, c'est-à-dire que je commence à faire les bons de commande, je commence à réserver les espaces un peu à droite à gauche, je commence à prendre un peu plus la main dessus. Et une fois que le Covid est passé, j'avais les clés en mode.
C'est ça, c'est-à-dire que aujourd'hui un salon Cana est présent, c'est toi qui gères le stand de A à Z, c'est toi qui gères l'équipe, toute la logistique, les hôtels, tout ça.
Alors les hôtels non, c'est Laura qui fait ça très bien. Moi ça va être la partie contacter leurs gars, réserver les espaces, négocier avec eux des trucs s'il y a besoin.
C'est toi qui décides des salons ou c'est
C'est moi qui décide des salons et c'est les chiffres aussi. Je t'avoue que ça coûte très cher en fait de faire des salons. Il y a beaucoup de frais cachés entre guillemets. qui sont des lignes en fait que tu perçois pas, mais qu'en fait t'as plein de trucs
qui sont réels.
Ils sont réels. Le distributeur, même si nous c'est le distributeur du groupe, bah tu payes quand même le distributeur.
Ah ouais.
Bien sûr, il y a des MDS prend des pourcentages sur sur chaque vente. Donc t'as ça, t'as bah après les frais d'espace, les frais de déplacement, bah des libraires comme moi, des auteurs, tous ces trucs-là. Il y a beaucoup de choses qui s'accumulent. Donc je fais ça, je fais les bons de commande aussi. On a le stand, on le stocke nous au bureau à Paris. Les stands amovibles comme ça, hein, je précise, hein, les stands Japan Expo, ils sont chez les standistes,
ouais,
les gros
sûr,
stands
sûr,
ils sont
ouais.
ailleurs, mais ceux-là c'est des trucs qui se démontent, en fait tout tient sur une palette à la fin.
Ah ouais,
ouais.
Ah, belle perf.
T'as une palette avec les trois calags et une palette avec tout, toutes les bâches et toutes les tables.
Ok. Mais par contre, un stand comme il y a à Angoulême ou Japan, c'est différent.
C'est différent. C'est stocké chez un standiste qui a des bouts, en fait. C'est comme un gros Lego. Il le monte un peu comme on lui demande s'il y a besoin, quoi. Et là, pour le coup, je ne fais pas l'installation. C'est lui qui fait
Dieu
ça
merci.
Extrêmement bien. Ouais, Dieu merci.
Surtout sur celui de la Japan.
Ah ouais, ouais, c'est un taf. C'est pareil. Ça, c'est un boulot qui est très.
Faut des grues, hein.
Non, faut pas des grues. Mais mais pas loin, ouais. Faut des gros trucs, des engins, pardon, de chantier.
Du coup, t'es un peu genre un libraire itinérant d'une seule maison d'édition.
Ouais, alors pour Kana, oui, puisque je bosse énormément avec Kana, j'ai bossé pour plein d'autres éditeurs.
Ouais.
Alors, je l'ai fait pour Dargo, j'ai bossé pour Gutsèvre à un moment, mais via un libraire, donc en fait c'était un peu en indirect. Urban, j'ai beaucoup fait aussi. Maintenant je suis quasi full Kana, ouais.
Et tu vois, il y a eu ce truc de avant le Covid, t'avais, on va dire, moins de gestion à faire. Après Covid, t'avais beaucoup de gestion à faire. Et maintenant, je crois que t'as encore passé un step chez Kana.
Ouais, il y a d'autres trucs qui se sont mis en place cette année, qui découlent d'une période où j'ai bossé au bureau pendant 3 mois parce qu'ils avaient besoin, d'aide, donc je suis monté bosser à Paris sur 3 mois. Et après ça, j'ai eu une discussion avec la cofondatrice de Kana, donc Christelle Hulens, qui a voulu avoir mon retour parce qu'elle aime bien prendre, tu vois, le ressenti d'une personne qui a bossé dans la boîte, parce que quand t'arrives avec un regard extérieur et frais, tu peux voir des trucs qui potentiellement peuvent être soit améliorés ou au moins avoir une opinion différente de celle qu'elle entend au quotidien avec ses collaborateurs. Et en fait, de cette discussion découle que je commence à faire des dossiers de veille éditoriale. Donc en gros, je leur soumets tous les mois un dossier dans lequel je leur dis, ok, il y a telle série, ça pourrait être pas mal, telle série, ça pourrait être pas mal, ou alors faudrait aller chercher
sur des séries
séries japonaises en cours de publication et pas que, puisque en fait le marché français, faut être conscient qu'on a sorti énormément de trucs à un moment où le lectorat était pas encore là, et il y a beaucoup de séries qui sont sorties dans le passé qui aujourd'hui auraient des potentiels de vente. Bah tu le vois, tu avec des republications d'œuvres qui sont plus dispo depuis longtemps, que tout le monde attend. Il y a de base, avec ce qui est sorti en France, je pense que tu peux faire des collectes entières de trucs Eric
de republication
potentiel de vente. C'est pas ce qu'ils cherchent, tu vois. Mais malgré tout, il y a une matière éditoriale et une qualité éditoriale qu'elle a, quoi. Et donc je fais un peu les deux, je fais à la fois des trucs déjà dispo, enfin plus dispo pardon, mais déjà publiés en France, des trucs japonais qui sont pas encore sur le marché français, des idées de collection, des idées de.
Et comment tu parles un peu jap ou
pas du tout, c'est en full scan comme un sauvage, dans mon coin, avec les retours des copains à droite à gauche qui eux aussi sont consommateurs, tu vois. À partir du moment où tu te mets une idée en tête, t'es plus à l'écoute. Donc tu vois, quand t'as un mec qui va venir t'en parler et dire au fait il y a ça, au fait il y a ça, au fait il y a ça, et du coup je fais ces trucs là pendant un an, et au bout d'un an on refait un point, et en fait je me rends compte que moi, à force de faire des salons avec des auteurs français, j'aime beaucoup la relation avec les auteurs, puisque je perçois un peu ce qu'est le fait d'être un auteur, le fait d'avoir des doutes, et en fait je me dis ok, la créa française potentiellement ça pourrait m'intéresser.
Donc
avec ceux qui tournent avec nous pendant cette période là et je trouve ça chouette, et je me dis en fait ouais, peut-être ça pourrait me plaire. Et puis je reparle avec Christelle un moment, et elle me dit bah écoute, si jamais on peut se dire, si tu viens avec un dossier qui nous convient et toi qui a un truc qui te parle bien et que on est chaud de te suivre, bah vas-y, let's go. Donc c'est ce que je fais ces derniers temps, tu vois. J'essaye de faire relever un peu la ligne. J'ai quelques trucs en ligne de mire, mais il y a rien qui est signé pour le moment, donc j'en parlerai pas. Mais donc il y a ce pôle français, et il y a aussi la volonté de récupérer une série japonaise à adapter, pour voir un peu comment travailler avec des ayants droit, puisque toute la chaîne du livre entre une création française et ou l'adaptation d'un truc japonais, c'est pas du tout la même chose. Il y a énormément de cycles de validation avec le Japon, donc c'est aussi travailler sous d'autres contraintes, voir ce que tu peux faire ou non, enfin plein d'autres trucs qui m'intéressent, et notamment des séries en plus. Là pour le coup, si tout se passe comme prévu, celle que je devrais récupérer, c'est un truc que j'aime beaucoup de base et qui en plus a un intérêt à être chez Kana. Donc ce sera pas la plus compliquée à travailler.
Qu'un potentiel,
je pense, ouais, ce sera pas un master top vente, mais c'est un potentiel, ouais, carrément. Mm. Donc on verra bien. Je le souhaite, je croise les doigts. Mais c'est pas pour tout de suite là pour le coup, puisque le temps de récupérer les droits, de récupérer le matériel, de récupérer tout ça, il y a beaucoup de choses qui se passent.
Aujourd'hui, son activité, elle se divise en deux segments.
Ouais.
La gestion des stands.
Ouais.
En gros, ce que tu fais aujourd'hui typiquement. Et une partie d'éditeur.
Ouais.
Ok. En freelance, toujours.
En freelance, toujours.
C'est un statut particulier, ça. Vous devez pas être beaucoup en France.
Non, on doit pas être beaucoup à avoir les deux. Ouais. Mais c'est ça que j'aime bien dans la BD Drintaro qu'on a sorti là pour Angoulême.
24 images secondes. Je l'ai fini il y a pas longtemps. Il est trop bien.
C'est trop bien. Mais tu sais, il y a un poème à un moment où je serais incapable de te le citer de tête. Mais le mec, il dit que il marche tout droit. Et en fait, c'est en se retournant, il voit qu'il y a un chemin, mais le chemin, il était pas là initialement. Et j'ai vraiment cette sensation, on va d'aller par là. Franchement, je sais pas où je vais. Si là, tu vois, il y a un tournant vers l'édito, peut-être que ce sera un truc où je vais en revenir, peut-être que ça me plaira pas, ou à l'inverse, ça va beaucoup me plaire et je vais complètement transvaser. J'en sais rien. J'avance. En vrai, tant que je peux bouffer, ça va. C'est pas un problème. Il y a un truc qui m'anime profondément de toujours aller plus loin dans ce qui est devant moi, pour garder une stimulation intellectuelle du quotidien qui fait que le taf, certes, c'est une charge physique, mais mentalement, c'est plus simple. Tu vois, je fais pas les 3-8. Je suis pas un agriculteur, je suis pas tout ça.
C'est ça.
J'ai un confort de vie bien plus au-dessus de beaucoup de choses et je trouve ça précieux et je veux garder cette chance que j'ai, tu vois.
Ouais, je comprends.
Qui est pas donnée à tous et donc, voilà.
Et tu vois, tu l'expliquais. T'as suivi les auteurs, tu les connais, enfin je veux dire.
Senchi, il écoutait les podcasts que qu'on enregistrait chez Comics Blog.
C'est vrai.
Le jour où j'ai appris ça, j'étais mort de rire. Et c'est trop marrant parce qu'il y a plein d'auteurs que j'ai pu croiser, genre Sylvain Repos, genre de trucs, qui écoutaient nos conneries qu'on enregistrait dans des états tierces et qui les faisaient marrer. Et quand je les ai rencontrés, Senchi, après, enfin, il fait mec, je sais pas si tu te demandais la dernière fois, mais t'es pas genre Straffer, c'était mon blast chez Comics Blog.
Oui, c'est ce que t'as sur Insta.
C'est ce que j'ai sur Insta, ouais. J'ai 40 000 surnoms, ouais, mais. Peu importe. Et il fait ouais, j'ai reconnu ta voix et tout, mais j'étais pas sûr et je suis allé checker. En fait, si, c'était bien ça. On commence à discuter. Il fait ouais, j'écoutais tes trucs à la fac quand je dessinais. Je me dis c'est incroyable, la boucle elle est bouclée. C'est une sensation vraiment trop bizarre, tu vois, de te dire ok, le mec qui est en face de moi, qui a un bouquin que je vends au quotidien, il a écouté nos conneries. C'est à la fois hyper flatteur et à la fois complètement random. Et je
c'est hyper random.
Ouais,
c'est trop drôle.
Ouais.
En vrai, c'est hyper drôle. Mais l'endroit où je voulais aller avec toi, c'est que tu vois un peu du coup la situation qu'a qu'ont les auteurs français.
Ouais.
Parce que c'est assez nouveau aussi pour Kana, la création originale. Je veux dire, ces efforts qui sont mis, ça n'a pas toujours été. C'est pas le cœur de métier.
Non,
à
l'origine
Kana
a 25 ans, mais ça fait quand même quelques années maintenant que ça pousse à la créa.
J'ai l'impression que ces derniers temps, il y a vraiment depuis 2019.
Ouais.
Il y a vraiment ce boom et tout. Pourtant, il y a quand même une réalité que beaucoup des séries sont arrêtées.
Ouais.
Parce qu'il y a des chiffres derrière et tu vois, c'est classique. Toi, à ton sens, ça vient d'où ça? Pourquoi est-ce qu'il y a de la créa originale, mais qu'il y a aussi énormément d'arrêts, tu vois?
Parce que beaucoup de choses. Alors après, c'est mon avis perso. Hein.
Oui, mais de toute façon, on n'est pas ici pour donner une vérité, mais plutôt la tienne, tu vois.
Je pense que tu as beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Tu l'as dit, il y a un aspect financier pour un éditeur qui forcément va regarder les lignes. Si la politique, c'est de se dire, faut pas perdre d'argent, et plutôt que de te dire, on va investir pendant des années et au bout de ces certaines années, on voit si les efforts d'investissement des années où on a été en négatif commencent à changer la tendance. Et est-ce que tu arrives à inverser le truc? Ce qui peut être un puits financier ou à l'inverse, la bonne réussite. Soit tu fais un compte de, ok, est-ce qu'au bout de deux volumes, les ventes, tu as une grosse attrition? Une attrition, c'est une perte de lecteurs. Est-ce que les gens ont suivi? Est-ce que ça a pris? Est-ce qu'on sent qu'il y a il y a quelque chose qui se passe, ou est-ce qu'à l'inverse, on sent que ça a été insoufflé et que ça va redescendre? Qu'importe la qualité de l'œuvre, malheureusement, c'est ça le truc, c'est que des fois, t'as des trucs très bien qui se retrouvent à être annulés parce que ça trouve pas son public, malheureusement, soit publié trop tôt, soit publié, je sais pas, j'en sais rien, tu vois, il y a plein de raisons qui peuvent être évoquées. Du coup, c'est compliqué vraiment de mettre le doigt dessus. Après, t'as beaucoup de choses. Alors, moi, en perso, je sais que pendant très longtemps, quand j'ouvrais un manga français, ne serait-ce qu'au dessin, tu voyais que c'était français.
Ouais,
et ça sautait aux yeux en mode, ok. Maintenant, là, t'as vraiment. Je pense qu'on est un gap de changement qui a commencé à s'initier il y a quelques années,
ouais.
genre 2-3 ans, peut-être plus que ça, parce que les gens ont travaillé avant les publications des bouquins. Mais on commence vraiment à gommer cette frontière-là, et maintenant, il y a vraiment des bouquins, quand tu les ouvres, tu fais « Ok, d'accord, donc là... »
Tu serais pas dire, ouais.
Ouais, parce qu'en fait, les auteurs, c'est presque nouvelle génération, genre Internet biberonné aux animés, aux mangas, qui ont dessiné du manga depuis l'enfance, qui ont pas eu, c'est le passage de « Je suis passé par de la BD », tu vois, ouais. qui a un trait assez... qu'ils n'arrivent pas à se défaire, à désapprendre en fait cet héritage-là. Et du coup, c'est vraiment cette mixité maintenant globale qui fait que tu te retrouves avec des brutes qui déboulent. J'ai rencontré un mec complètement random un jour, je bossais pour Akata au Hellfest. Un mec, il a 22 ans, c'est un copycat de Samoura comme jamais. Et tu fais « Ah ouais, d'accord, donc toi, t'as 22 ans, tu dessines dans ton coin tranquille et tu ponds des trucs comme as. » Et là, tu fais « Ah ouais, d'accord, bon, bah écoute, ouais, c'est trop bien en vrai, tu vois, que ouais. ça arrive avec... »
Ouais, celle-là, elle est dingue. Ouais. C'est incroyable.
Complètement dingue. Mais vraiment, en plus, au début, on discute et puis il était avec ses parents et c'est le daron qui vient me voir et qui fait « Ouais, le petit, là, il dessine et tout. » Son père, incroyable, c'est un mec qui construit des tourbus pour les cours de musique.
What?
Ouais.
Ah, c'est hyper drôle, ça.
Qui fait plein de trucs, tu vois, en mode, moi, hyper curieux, puis on se faisait chier au Hellfest, on va dire ce qu'il y a aussi.
Pourtant, le métal, c'est ton truc.
Alors, le métal, c'est mon truc, ouais. Par contre, le métal saucisse Disneyland, beaucoup moins.
C'est quoi ça, le métal saucisse Disneyland?
Ouais, c'est le Hellfest aujourd'hui. Le Hellfest aujourd'hui, c'est un truc de CSP+, de droitard, ce que tu veux. Ça vend des pins nazis dans les l'extrême market, et genre, c'est normal. Non. Je l'ai fait pendant des années, tu vois, qui était... En fait, ce qui me fait chier, c'est qu'un festival basé sur la contre-culture se retrouve à être le porte-étendard du capitalisme, et ça me rend ouf. De construire un modèle d'une entreprise véreuse sur une culture qui prône tout l'inverse. Donc, c'est vraiment... Ils ont switché, tu vois, et le switch mental, bon, après, t'es pas à leur place, tu vois pas les sommes qui sont engagées, tu sais pas comment tu pourrais réagir. Mmh. C'est facile de dire quand t'es dans une situation comme la nôtre.
Mais ça, est-ce que c'est pas un des rares points des gros événements? Tu vois, un événement qui grossit, est-ce qu'il y a pas toujours ce palier, ce plafond?
Ouais, mais est-ce
vert?
Qu'un événement est obligé de grossir tout le temps? Tu vois, c'est aussi ça la question. Mmh. Est-ce que t'es obligé de te dire, je cherche à faire toujours plus? Parce que le problème de société ouais. aujourd'hui, en vrai, si tu l'expands vraiment très largement, est-ce qu'on est toujours obligé d'avoir de la croissance? Est-ce qu'on est toujours obligé d'être plus nombreux? Est-ce qu'on est toujours obligé de faire toujours plus? Plutôt que de se dire, être en mort, là, on a ce qu'il faut, on change parce que si on reste à l'état du monde, l'écologie c'est plus possible et le confort de vie des gens c'est plus possible non plus en fait, rien ne va plus et tout fout le camp, donc c'est deux manières de voir les choses qui sont vraiment différentes.
Ouais, je vois.
Mais
je vais, désolé parce que j'étais un peu écarté de la route, on va revenir sur ce mec de 22 ans
oui,
qui dessine comme un
fou,
comme un crack,
comme un craquito, et donc le daron me dit ouais vas-y monte.
Déjà il est drôle que le daron, tu vois, si le mec a 13 ans, ok,
oui.
22 ans, tu vois,
22
déjà
ans,
il est drôle
ouais,
que le daron
et en fait on commence à discuter de bouquins et puis en fait ça passe bien, puis il me montre ce qu'il fait et je me dis ok, trop bien, tu vois. Et moi à ce moment là j'ai pas encore j'ai déjà eu la discussion, du coup c'est non, faux, pardon. Je me contredis, pardon.
Bref, faux. T'avais déjà discuté avec Christelle?
Non, j'avais pas eu cette deuxième discussion avec Christelle où on parlait de projet manga, justement. C'était le mois d'avant, puisque le Hellfest c'est fin juin et Japan c'est mi-juillet. Du coup, je rencontre ce mec en me disant, mais il est trop fort, faut absolument qu'il fasse un truc, qu'il fasse quelque chose. Donc, on a sympathisé. Encore aujourd'hui, c'est un bon copain. On joue ensemble aux jeux vidéo à des heures très tardives, à des jeux déjà.
T'es un mec de la nuit un peu?
Hein?
T'es un mec qui vit plus la nuit?
Ouais, j'ai tendance un peu à traîner la nuit, et si je m'écoutais, je traînerais très fortement la nuit. Les ambiances nocturnes, c'est calme, ça m'apaise et ça me permet de me focus un peu. La journée, j'adore le matin aussi pour plein d'autres trucs. Quand t'as plein de trucs à faire, tu te lèves tôt et tu bombardes café et
Mais chien. L'après-midi, c'est chiant.
L'après-midi, c'est chiant.
Je suis d'accord, voilà. L'après-midi.
Je pense
c'est
que
chiant.
Je vais, à terme, ça va être levé tôt. Sieste l'après-midi et toute la nuit. J'en sais rien, tu vois, on verra bien. Mais ouais.
Ce mec de 22 ans, oui. Après la discussion de Christelle, oui. Du coup, là, tu le rencontres avant la deuxième discussion.
Oui.
Mais t'es resté en contact avec lui?
Ouais, carrément. On joue à Overwatch, de temps en temps, Overwatch 2, dead game de fou qui rend fou. Faut arrêter de jouer à ça. Mais c'est un jeu qu'on partage et on se tape des délires, tu vois. Puis à côté de ça, je te disais tout à l'heure, moi, ma première passion, c'est la musique.
Ouais.
C'est un mec qui digue bien, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des fois, il m'envoie des sons en mode, est-ce que t'as capté ça? Est-ce que t'as capté ça? Et moi, inversement, pareil, tu vois. Avec des goûts très éclectiques. Donc c'est chouette.
Assez vaste.
Ouais, carrément. Moi, pendant longtemps, j'étais un métalleux bête.
Monomaniaque.
Monomaniaque. Bon, je viens de la musique classique, moi, initialement. J'ai fait pas mal de piano quand j'étais gosse. Et à l'adolescence, / jeune adulte, besoin d'identification bête et con, je suis allé là-dedans. Et à un moment j'ai rouvert le champ des possibles quand je suis arrivé à la rédac, parce qu'on écoutait beaucoup de musique, et là du coup je me suis confronté au goût de tout le monde, et et admettre à moi-même ce que j'ai dit tout à l'heure entre le paraître et l'être, qu'en fait au lieu d'être un gros trou de balle et à dire j'aime pas parce que c'est un genre de musique que j'avais essayé et que j'aimais pas, d'être vraiment écouté, de me faire un avis et de me dire finalement ok c'est cool.
Ouais.
Et du coup aujourd'hui j'écoute vraiment de tout, tu vois, j'ai une passion pour tout ce qui est bien fait et du coup ça c'est chouette quoi.
Ok. Mais, hyper stylé. Ouais. Et du coup t'aurais pour ambition toi que ce mec-là il rejoigne par exemple Kana sous ta tutelle.
C'est un truc que j'aimerais bien. Maintenant c'est toujours pareil entre des jeunes auteurs prometteurs et un projet solide tangible. Et
justement j'ai une question par rapport à ça. Comment est-ce que toi en tant qu'éditeur tu peux transformer cet auteur prometteur en projet tangible? Tu vois ce que je veux dire?
C'est le challenge de sculpter un diamant brut, de le sortir de la pierre et de l'aider à s'émanciper. Je vois vraiment la relation auteur-éditeur comme un jeu d'échange et de discussion dans lesquels t'abordes certes l'œuvre, mais surtout la manière de
la présenter. De la rendre
au-delà
accessible.
De ça, faut comprendre l'autre en fait. Tu sais, je te disais tout à l'heure, je suis très très empathique. Je cherche toujours à me mettre à la place des autres pour comprendre. Et avec un auteur, encore plus. C'est-à-dire que je veux comprendre l'enjeu, la volonté, puisque c'est toujours compliqué en fait quand t'as un projet en tête de faire transparaître tel que toi tu le perçois. Tu vois, t'auras beau faire un dossier d'édition, il y a des mecs qui font des dossiers d'édition qui rendent pas du tout hommage à ce qu'ils ont dans la tête, et c'est dommage. Et c'est au bout de longues discussions avec eux que tu te rends compte qu'en fait c'est un truc de ouf et que faut aller chercher plus loin et que ceci et que cela.
Ouais, ça. Mais faut pouvoir prendre le temps.
Faut pouvoir prendre le temps, carrément. Mais c'est pour ça que moi c'est l'avantage que j'ai. Alors certes je fais beaucoup de salons, mais l'avantage que j'ai c'est que là je veux un seul projet de création pour pouvoir m'y dédier, pour pouvoir m'y poser, pour pouvoir mettre en place plein d'outils qui pourraient être utiles à l'auteur en face, trouver comment nourrir aussi un petit peu s'il a besoin ou s'il y a des blocages, je sais pas, sur du découpage, de la mise en page, ou j'en sais rien, avoir toute une base de données, de planches que je trouve stylées ou de découpages que je trouve stylées, juste pour, tu vois, des références, pas être un truc dans lequel il va aller se servir et faire un patchwork infâme, mais plutôt un truc de garder ces petites bouffées d'air à droite à gauche qui peuvent débloquer des situations. Tu sais jamais, en plus, comme dans une discussion avec un pote qui va mal, c'est jamais les mots qui seront les justes et lesquels auront de l'importance. T'auras beau déblatérer un flot entier de mots, ce sera sur ceux
où
il y en a un qui va tiquer et c'est pas celui auquel t'auras pensé. Donc c'est constituer une base de tout ça, et c'est comme ça je pense que tu peux aider à avancer pour un auteur, parce que c'est toujours compliqué aussi pour un jeune auteur, ou même un auteur un peu plus établi, mais je pense qu'avec les jeunes auteurs, pardon, c'est plus vrai. C'est que quand t'as un projet de manga, d'univers, t'as envie de tout mettre dedans.
Ouais.
Et c'est la première erreur à ne pas faire, je pense, c'est de vouloir tout foutre dedans. T'as généralement des cycles de publication qui sont courts, on le disait, 3, 4, 5 tomes, tu vois, ça dépend, avant de potentiellement pouvoir faire une suite. Donc déjà faut que ça puisse se tenir, donc tu sais que tu pourras pas tout mettre dedans, et si tu cherches à tout mettre tu vas rusher, tu vas te perdre dedans,
ça je pense que c'est important d'insister sur ce point. C'est vraiment une erreur, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'auteurs qui disent qu'ils vont sur leurs premières œuvres, ils ont voulu tout mettre et que finalement c'était pas
bien sûr, c'est un truc qui est vrai dans tout, tu vois, c'est la même chose au cinéma, c'est la même chose partout, c'est qu'en fait
tu veux show off
tu veux show off parce que t'as enfin ton occasion de monter sur scène, donc t'as envie de montrer ce que tu sais faire, t'as envie d'en mettre partout, c'est normal, mais par contre force est de constater que ça ne marche pas, ou alors à de très rares exceptions, et que la probabilité elle est mauvaise du coup, et que plutôt que de vouloir show off et d'en mettre partout, il faut prendre 12 pas de recul, faut élaguer, faut couper à la hache, faut tout dégraisser, tu vois, et garder vraiment l'essence de ton truc.
Exactement.
Pour pas avoir une narration trop lourde, ou alors faire de la narration à la fois dans ton dessin et dans tes bulles, et pas y a rien qui me saoule plus que une bulle qui te répète ce qui se passe dans le dessin. Ça c'est un truc
ou t'en écrire sans dessiner.
Exactement, je fais une togashi, tu vois, je fais un truc comme ça, mais il y a des trucs. Après je pense que c'est aussi la perception de tout à chacun. Moi je sais que c'est des trucs qui me dérangent et que j'aime pas lire, et j'essaye de faire aussi la différence entre moi, mes goûts, et ce qui peut plaire au lecteur. Parce que si je mets que mes goûts, je suis un mec de niche. J'adore le catalogue Kana pour ça, c'est que c'est tellement vaste que tu peux te taper du Kamimura, du Matsumoto, et en même temps aller manger du Naruto et plein de shonen et voilà, et on a pléthore de séries médium, on va appeler ça des médiums, tu vois, et qui sont là pour les segments shonen, pour combler tout ça. Et voilà.
Sans aller dans la répétition, mais au début tu viens pas du manga.
Non.
Au début tu viens pas de l'édito.
Non plus.
Qu'est-ce qui t'a donné envie à la fois d'aller dans le manga et dans l'édito du manga.
Dans le manga, c'était c'est en fait les salons. Quand je découvre les salons, quand je vends des produits dérivés, je découvre une ambiance qui est un peu bizarre, qui est celle de un travail condensé très chargé, et du coup qui est rémunéré en conséquence, qui me plaît bien. Quand je bosse, ça me dérange pas de bosser 48 heures en mode
tu fais que
dors,
ça.
Tu te lèves et tu vas et tu ouais. travailler. Et grosse charge de travail, au moins tu sais pourquoi t'es fatigué à la fin de ta journée et tu sais qu'à la fin de ta semaine t'es mort. Genre après un Montreuil Festival Jeunesse, c'est tu sors, t'as les yeux, ils sont rendus là, t'en peux plus. C'est un truc qui m'a beaucoup plu très vite. Après, quand je commence à rentrer dans l'édition dans l'édition, c'est encore plus l'aspect colo. C'est-à-dire qu'au début, personne se connaît. C'est un peu chelou. Et à la fin, personne veut se lâcher parce que t'as vécu un effort commun.
Ouais, qui est
pas
dense.
Comme la guerre, tu vois, mais c'est un truc que j'assimile un peu à ça. Tu pars au front, voilà. Tu pars au front ensemble, tu fais front ensemble. T'as des hordes et des hordes de gens sur Japan, le nombre de personnes que t'encaisses dans les conditions de chaleur extrême, de fatigue extrême. Mais s'il y a une bonne ambiance, si t'arrives à établir une confiance entre tout le monde et que tu sais que tu peux te marrer, mais qu'avant tout t'es là pour bosser. Moi, c'est la chance que j'ai aujourd'hui avec l'équipe que je me suis constituée.
Ouais, c'est vrai que maintenant on voit toujours les mêmes têtes.
C'est toujours les mêmes têtes parce que c'est des mecs et des nanas qui savent bosser, qui savent se marrer et qui savent finir la journée. Une fois que t'as fini la journée, bah tu tapes des barres et en fait tes collègues de travail initialement, puis tu deviens pote après et tu partages des valeurs communes et tu partages plein de trucs.
Une énergie positive.
Une énergie qui est folle et on se nourrit tous les uns des autres. C'est ultra galvanisant.
Et pourquoi l'édito du coup?
L'édito, bah ça découle de ce que je te disais
ouais,
avant.
Ça t'est tombé dessus plus qu'autre chose en fait.
Ouais, un peu en fait. Je me rendais compte, quand je rencontre Cab, on se connaissait pas, c'était Japan Tour la première fois.
Cab qui est l'auteur de Onera avec le scénariste Onera, édité.
Chez Kana, exactement. Je découvre ce qu'est le fait d'être scénariste dans le manga français. J'avoue, il n'y en a pas 40, je pense, non plus, des comme lui. Je découvre un mec avec qui je sympathise très vite, on devient proche très vite et on devient très bons copains et on parle de tout et on échange très régulièrement. Je me rends compte que j'aime bien un peu le côté de lui qui écrit des trucs. Il me demande ce que j'en pense, tu vois, il me donne une confiance que j'avais pas et en fait, je me rends compte que j'aime ça. J'en discute après avec d'autres j'ai d'autres copains à droite à gauche pareil qui commencent à me glisser des trucs comme ça et je me rends compte qu'il y a un truc qui s'éveille en moi et qui me fait ok, ce truc là en fait commence à m'intéresser, j'ai envie de creuser vers ça. Puis les salons, je vais pas te mentir, je commence aussi à en avoir fait le tour.
Ah, moi je veux pas aller contre toi mais c'est la première fois que tu fais ce salon.
Oui bien sûr, non mais je veux dire c'est vrai, j'ai pas complété le Pokédex mais j'ai pas fait
je comprends ce que tu veux dire.
Ce qui m'animait au quotidien n'est plus la même chose. J'adore faire des salons aujourd'hui pour rencontrer des gens que tu imagines même pas en fait, et j'adore mettre des bouquins dans les mains de gens en me disant peut-être que celui-ci à cet instant donné va avoir une importance dans sa vie et je suis hyper content d'être le passeur de ça, tu vois. Mais par contre, me lever à 6h du mat pour prendre un train pour commencer à installer
ça,
à 2h dans
de
l'expo poussiéreux, il y a un moment. Non, mais tu sais, les bouquins c'est quand même les mêmes à la fin, donc tu te mets un peu en mode automatique, tu sais comment tu travailles, tu sais comment tu fais.
En général, quand tu te mets en mode automatique, c'est que faut
c'est
changer.
C'est là où faut commencer à percevoir autre chose. Et du coup, je perçois autre chose dans l'édito. Il y a ce truc là qui m'anime, qui me donne envie d'aller voir ailleurs.
Puis t'as une proximité aussi avec la maison, tu sais comment elle fonctionne.
Carrément, et j'ai une confiance de fou aussi.
Ouais, voilà. Donc, c'est une transition qui se fait, quoi.
Eux me font, pour un externe, je suis le plus interne des externes, c'est sûr. Il y a un graphiste qui bosse depuis des années avec eux aussi, qui lui aussi est considéré un peu comme ça. Mais ils me font confiance, ils m'écoutent, ils demandent à m'écouter aussi des fois, ils me donnent des très bons conseils, ils m'orientent, on discute de tout. J'ai
Très bonne relation.
C'est vraiment chouette.
Trop cool. Il paraît, je ne sais pas, t'es très musique, très musique. T'as une belle collection de vinyles.
Oui, de CD aussi.
T'as une belle collection. Ouais. Moi, je connais rien au métal.
Ouais.
Mais quand je dis que je connais rien, ça se trouve, il y en a plein.
Ouais.
Mais tu me demandes de citer un groupe.
Ah oui, il y en a énormément. Bah ça, déjà, c'en est un.
Non, mais tu vois, genre, ce que je veux dire, c'est qu'il y a... Ça me viendrait pas, tu vois. Peut-être que tu me dirais des noms, je fais bah oui, évidemment.
Ah bah après, c'est large en fait, c'est comme tout. Si tu reprends un peu l'histoire, t'as le hard rock qui vient avant, hard rock c'est les AC/DC, c'est des trucs comme ça. Et après, t'as le métal. Alors là, mon gars, le métal, c'est sûrement des genres musicaux les plus variés parce qu'en fait, si tu mets de la distorsion à un mec qui gueule sur n'importe quel style de musique, ça devient du métal. Donc en fait, tu peux prendre tous les styles de musique qui existent déjà.
Tu fais gueuler un mec.
La même chose avec des mecs qui hurlent. T'as beaucoup, beaucoup de trucs. Moi, ça, je me suis rendu très con, hein, 30 ans passés quand même, je me rends compte que la musique que j'écoute influe sur mon état d'esprit du quotidien. Donc des trucs énervés tout le temps, j'arrête. Tu vois, maintenant le matin, c'est de la BO, c'est du petit jazz tranquille, c'est du machin. Si je vois qu'à un moment dans l'après-midi, je suis dans le rush, on va partir sur des trucs un peu plus bourrins. Et j'adore faire un truc, c'est quand je lis un bouquin, j'essaye de trouver un disque qui va
avec le bouquin,
avec dans l'ambiance. Voilà, c'est ça. Je lisais récemment Baptisme de Umezu chez Glénat. Qui est un truc complètement chez père et à côté j'avais un espèce de rock psyché qui s'appelle The Devil's Blood que j'aime beaucoup. C'est du rock psyché mais satanique grosso modo, c'est complètement chez père mais musicalement c'est génial et ça s'y prête très bien du coup. Et tu vois, de coupler à chaque fois un artiste parce que généralement en indice que tu finis pas la série, mais un artiste a une série. Et ça, c'est mon petit plaisir du quotidien. Ouais.
J'ai l'impression que t'es un curieux de culture.
J'essaye de rester curieux de tout. J'adore apprendre. C'est vraiment le truc qui me passionne au quotidien. Tu te fais chier à partir du moment où tu te mets sur tes acquis. Enfin, ça, c'est mon avis perso. Hein. Mais moi, je me ferais chier le jour où je serais sur des acquis et j'arrêterai d'être curieux et j'arrêterai de découvrir des trucs.
Et est-ce qu'il y a pas un jour où ce curieux de culture se transformerait en curieux de création?
Ah si, carrément, je pense que ça viendra. Je fais de la musique dans mon coin, mais rien d'abouti. J'ai des idées de scénar qui me popent en tête que je mets sur table vite fait. Après, moi, je suis, pour revenir à Cab, on parlait avant, je suis à fantaisique aussi, donc je dessine pas, je projette rien. C'est assez compliqué d'entreprendre de la création graphique dans ces trucs-là, ou alors en abstrait. J'adore l'abstrait, donc c'est tout que je pourrais faire, effectivement. Le besoin créatif, le besoin de sortir un truc de moi, je pense que je parlais de travailler sur soi tout à l'heure. C'est un truc qui va me demander tellement que c'est une porte que j'ai pas envie d'ouvrir tout de suite parce que j'ai d'autres trucs professionnels à faire. Parce que l'introspection réelle, c'est un truc qui prend de la place. C'est un truc
qui fait peur
et c'est un truc qui déstabilise. Donc tu sais jamais sur quel pied tu vas retomber. Et c'est un truc qui viendra, hein, c'est sûr, parce que à force de consommer, tu vois, naturellement il y a des trucs qui pop, qui pop tout seul.
Puis surtout, je pense quand tu côtoies des gens, tu vois, comme Cab ou quoi, qui sont dans la création, il y a forcément...
Ah, bien sûr, l'émulsion, elle est dingue. C'est un truc qu'on avait à la rédac chez Comics Blog aussi, c'est que l'énergie d'une personne va débloquer un truc chez toi que t'avais pas bougé, qui en fait tu te rends compte que tu peux avancer, et tu vois, et ainsi de suite. Et dans les pools créatifs, dessinateurs, auteurs, ce que tu veux, ça marche pareil. C'est l'élan de l'un qui va entraîner l'autre, puis après c'est toi qui le rentraîne, et ainsi de suite. Et c'est un jeu qui est beaucoup plus sain, et tout paraît plus simple aussi à ce moment-là, parce que t'es entraîné, tu vois, t'es entraîné par le truc, et tu te laisses porter.
C'est pour ça, je pense, l'entourage, c'est, je sais pas si tu connais, il y a un podcast, moi, que j'écoutais beaucoup avant, beaucoup moins maintenant, mais qui est Génération Do It Yourself, qui est très axé sur l'entrepreneuriat, etc.
Okay.
Et globalement, sa musique d'intro même, c'est nous sommes la moyenne des personnes que nous côtoyons. Enfin, tu vois, il part vraiment là-dessus. Et ça, je trouve ça, c'est vrai. Et même pour les auteurs, que ça soit question de motivation, de création, enfin de tout, tu vois, ne pas être dans son coin.
Ah oui, bien sûr. C'est très compliqué de créer tout seul dans son coin.
Ouais. Pourtant, c'est un métier très, très solitaire.
C'est un métier très solitaire, ouais, mais c'est comme tout. Et c'est comme quand, imaginons, t'as des problèmes dans la vie, t'en parles pas, bah, tu tournes en boucle avec et tu vois pas le truc qui ferait que tu verrais là à côté et qu'en fait, ce serait vachement plus simple si ça sortait de toi, parce que déjà tu le verbalises, tu le rends tangible, t'as un avis extérieur qui prendra jamais en compte tous les éléments de ta vie qui font que le problème il a cette importance dans ta vie, mais qui peuvent te donner des voies de changement, et pareil dans la création du coup, et c'est ultra important de le faire. Après c'est trouver un juste milieu, tu vois, il y a des gens qui sont très solitaires, il leur faut quand même ce truc là mais un petit peu, y a
ouais, parce qu'ils rechargent leur batterie en étant tout seul, tout ça, mais oui clairement. Parce que j'avais pas fini avec ma question tout à l'heure sur le métal. Si tu me dis vas-y, ce soir en rentrant t'écoutes trois groupes
ou là
trois musiques,
si tu veux te faire une idée vaste ou tu veux aimer, ça va dépendre du truc.
Ok, peut-être le truc le plus accessible.
Enfin,
tu vois, qui est un peu plus mainstream, peut-être un peu plus
Bah les classiques, moi, de l'adolescence, c'était les Monson, les Slipknot, les trucs comme ça. Bon, Slipknot c'était assez ça zookait un peu. Monson aujourd'hui tu peux en écouter, bon après faut passer l'aspect moral de le mec c'est quand même une grosse merde, mais qu'est-ce que t'as, si t'as des trucs qui sont classés, il y a un truc qui s'appelle Volbeat, c'est des danois si j'ai pas de conneries, parce que j'en écoute quasiment plus, mais c'est très accessible, c'est un espèce de rockabilly, un peu plus nerveux, ça gueule pas, c'est très chill. Après si tu veux commencer à pousser un peu plus loin la chansonnette, moi mon groupe ultime c'est Meshuga, c'est les mecs qui font de la
Meshuga,
ça veut dire fou en norvégien si j'ai pas de conneries, ou suédois, le pays d'où ils viennent.
Pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'il y a énormément de groupes de métal qui viennent du nord?
Pour plein de raisons. Parce que le mouvement des Colossides par là-bas, enfin il y a tout un délire, il y a des documentaires passionnants sur ça et beaucoup de trucs assez intéressants, mais eux pour le coup ils font de la polyrythmie, c'est-à-dire que pour le cerveau c'est très compliqué parce que tu vas avoir un rythme, tu vois comment c'est foutu un peu la musique, binaire ternaire, soit alors, t'es en deux temps soit t'es en trois temps, et en gros eux ils ont la batterie qui est sur un mode soit binaire soit ternaire, et
le reste
les instruments qui est sur l'opposé, ce qui fait qu'en fait dans ton cerveau jamais t'es bien calé, il y a un espèce de flottement où tu peux pas être focus et sur la batterie et sur ce que font les guitares, et par un jeu mathématique il y a des moments où ils se retrouvent ou alors ils coupent complètement le schéma musical. Il y a un truc incroyable, j'ai plus cette chaîne française d'un youtubeur qui a expliqué justement comment fonctionne Meshuga, je crois que c'est Mathématiquoi ou je sais pas quoi, ou le musique en maths, je sais plus, enfin vous mettez Meshuga maths France vous allez le trouver, et c'est incroyable en fait, il t'explique vraiment pourquoi ce groupe est complètement fou. Ils ont influencé des jazzman, ils ont influencé plein de gens, et ça m'apaise en fait, moi cette polyrythmie là qui est un espèce de truc qui me...
Moi j'aime bien l'aspect je dirais pas peut-être mathématique, mais l'aspect quand appliquer une logique à la création, tu vois.
Ouais.
Genre que ça soit dans le dessin, tu vois, avec les règles des tiers, même les plus, tu vois, le chiffre d'or, enfin, tout comme ça. Genre même en vidéo, enfin, tu vois, il y a plein de trucs comme ça qui s'applique. Et ouais, ça m'intéresse.
Tu vois, ah bah ça, tu pourras. Il y a des morceaux qui sont. Il y a toute une période qui est plus accessible parce que c'est plus mélodique ou plus groovy. Il y a un album qui s'appelle Nothing qu'ils ont enregistré au début avec une boîte à rythme tellement la batterie c'était le bordel. Ils l'ont réenregistré après avec le batteur, donc c'est re-Nothing. Et là, ça zouk, mon gars, t'as des morceaux vraiment où c'est très accessible et pas presque mélodique. Et là, aujourd'hui, ils sont rendus dans les phases où c'est plus dur de rentrer dedans. Donc, ouais, Nothing, tu peux commencer par
ça. Vas-y, bah, trop bien. Je passerai par là alors. Avant de passer sur les questions classiques du podcast, j'ai une dernière question pour toi, Thibaut. Ouais. Là, ce n'est pas le cas. Mais pourquoi, d'habitude, t'as toujours des lunettes de soleil?
Elles sont là.
Ouais, forcément.
Pourquoi? Par réflexe. Parce qu'aussi, à un moment, j'ai bossé. Je me suis rendu compte que j'avais les yeux assez sensibles à la lumière. Ce qui est une connerie, du coup, de porter des lunettes au quotidien parce que tu les rends encore plus sensibles. Parce que, je déteste me retrouver ébloui quand je sors d'un hall expo comme ça, où t'es avec de la lumière artificielle toute la journée.
Est-ce que t'es en train de parler des deux gros spots qui sont sur toi?
Là, ça va encore, c'est de la LED. Non, c'est pas de la LED.
Mais c'est soft,
tu vois. Et c'est pas des mélanges de plein de lumières différentes de chaque stand, de chaque machin, tu vois, où c'est un bordel pour tes yeux, tu sais plus où t'en es. Et quand tu sors, tu prends la lumière naturelle, tu fais waouh! Ou alors il fait gris, genre je pense à Madinazé en Belgique. J'aime la Belgique, mais la météo belge, c'est pas possible. Tu sors et c'est une chape de béton grise, mais ça t'aveugle, ouais. T'es là, c'est insupportable. Et du coup, bah, ça me nique les yeux. Donc, je sors avec mes lunettes et en fait, bah, les lunettes, au lieu de les poser parce que je vais les perdre, elles sont sur ma tête, constamment. Mais c'est devenu un élément de déco presque à chaque fois que je croise les gens. Et tu sais, truc incroyable, j'ai racheté une paire exactement de celle-là que j'aime beaucoup en me disant le jour où j'en aurai besoin, au moins, si jamais je les pète, j'en aurai une deuxième paire. Je les ai pétées dans la semaine. Dans la semaine, elles sont mortes. À un moment, dans une soirée à Montreuil, elles tombent par terre et on est en train de danser. Il y en a qui piétinent dessus sans les voir. Elles explosent. Je me dis, bon, ben, j'ai bien fait d'en racheter, mais j'en rachèterai pas d'autres parce que du coup, elles vont péter sinon aussi.
Ouais, c'est ça. C'est en fait parce que t'as acheté qu'elles se sont pétées.
C'est exactement. C'est sûr.
C'est incroyable. On va passer sur les deux dernières questions du manga et du podcast, pardon. C'est une reco d'un contenu à consommer qui soit, tiens, on va faire autrement. On va faire un contenu à consommer. Ça peut être, film, musique, peu importe, enfin, ce que tu veux, manga, il y a pas de règle. Mais avant ça, je veux que tu me cites un manga et sa musique.
Ah,
c'est ce que je veux dire.
Ouais, un manga et sa musique. Qu'est-ce qui a très bien fonctionné récemment? Je me suis fait un truc horrible qui s'appelle 17 ans chronique du mal chez Naban, inspiré de l'histoire vraie de Vanessa qui s'est fait séquestrer. Et j'ai écouté un truc en même temps. Alors c'est là où vous allez voir que j'aime me faire du mal. Un truc qui s'appelle Life Clover, qui fait partie, pour vous la faire courte, dans le metal. T'as un truc qui s'appelle le black metal, qui est un truc assez lancinant, déprimant. Et eux, ils sont dans la vibe suicidal black metal. Donc autant te dire que c'est des mecs qui sont pas bien dans leur peau. Et du coup j'écoutais ça en même temps et je pense que jamais un truc à aussi bien collé au récit qui était horrible, mais vraiment c'était mettre du sel sur une plaie ouverte, quoi. C'était terrible.
Parce que le récit, pour explicite-le.
C'est alors j'ai plus le nom malheureusement de la jeune femme, mais c'est une nana qui va se faire enlever par des lycéens et les lycéens qui au début sont juste en mode un peu euphorie, on a kidnappé une nana, ça commence par des attouchements qui dégénèrent très vite par des viols à répétition et en fait les mecs qui commencent à perdre le contrôle complet sur la situation jusqu'à se poser la question de on va la tuer, est-ce qu'on va pas la tuer. Il y a des mecs par ricochet qui finissent par mourir de conséquences d'actes et de plein de trucs, et c'est un truc qui a défrayé la chronique japonaise mais comme jamais, et ce qui est normal vu ce qui s'est passé, et qui est du coup mis en image chez Naban, mais c'est terrifiant, quoi.
Et c'est ce qui est très fort, c'est que c'est inspiré d'une histoire vraie.
Oui,
donc c'est très horrible. Le point de vue qui est proposé, je trouve, dans ce manga est intéressant aussi, c'est que tu vas pas suivre la fille ou quoi, tu vas suivre un des mecs de l'équipe qui a kidnappé.
Ouais.
Mais qui en même temps, il a des remords d'avoir fait ça.
Alors il a des remords. En fait, c'est le mec vraiment qui se fait prendre. Enfin, vos parents vous l'ont déjà dit. Voilà, ça, c'est ne côtoie pas des gens où en fait la situation va te glisser des mains, et c'est ce qui se passe pour lui, quoi.
Et voilà. Et après, il a tellement peur
de tout.
De tout.
Ouais.
Qu'il suit le mouvement parce qu'il a, ouais, il est effrayé.
Il est effrayé complètement. Et c'est comment, enfin, c'est les mécaniques de masse, hein. C'est comment est-ce que tu t'opposes à une machine qui te dépasse, et en fait, tu fais le dos rond parce que c'est plus simple et finalement, okay, tu te retrouves à faire des dingueries et voilà, quoi.
Ok, cette recommandation, elle me va très bien, cette recommandation musique manga. Mais du coup, j'aimerais bien que t'en fasses une autre. Ça peut être du catalogue Kana comme.
Moi, il y a un truc qui fait partie de mon ADN, c'est Le Roi et l'Oiseau, le dessin animé.
Ok.
Qui est.
Tu peux redire Le Roi et l'Oiseau?
Le Roi et l'Oiseau, ouais. L'Oiseau, c'est un tu vois, on parlait de besoins créatifs. C'est un truc que j'aurais bien fait un jour, c'est de faire une vidéo sur ça et sur, en fait, la production de ce film, qui a été le premier long métrage d'animation mis en chantier avant Blanche-Neige.
Okay.
Qui sort bien après, parce que ce film a eu des galères de production comme les plus grands blockbusters hollywoodiens ont pu avoir aujourd'hui, à base de financiers qui cassent les couilles, de contrôle de liberté d'expression et de liberté créatrice pardon et de contrôle de des créatifs, tu vois, forcés à sortir un film. C'est un film qui est sorti dans une première version que le financier a sorti en mode on le sort parce qu'il faut le sortir, ça coûte trop cher, parce qu'à l'époque c'était une industrie qui était nouvelle, tu vois. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait le monde connaît ce film à travers cette version là qui est pas la version de fin que nous on a. Par exemple, les Japonais, c'est il y a comment il s'appelait Takahata de Ghibli, qui était très fan de ce film et qui en parle dans je sais plus quel documentaire ou dans un supplément peut-être du DVD ou du Blu-ray, je sais plus du Roi et l'Oiseau. Et eux, c'est cette version du film-là qu'ils ont, tu vois. Et ils se sont inspirés de ça pendant très longtemps parce que c'est un film qui est magnifique, qui part d'un conte à la base. Alors j'ai plus le nom du poète. Je crois que c'est Anderson, si j'ai pas de bêtises, qui est le conte. J'ai plus le nom du conte non plus, okay. Mais c'est La Bergère et le Ramoneur, grosso modo. Je crois que c'est ça. Et qui est le même mec qui a fait La Princesse au petit pois.
Okay.
Et en gros, le conte est horrible. C'est-à-dire que c'est des petits santons dans une cuisine qui veulent s'évader et découvrir la liberté parce qu'ils voient dans une fenêtre qu'il y a des trucs qui se passent dehors, tu vois. Et il y a un roi qui est un autre santon et qui veut pas voir la bergère partir parce qu'elle est magnifique et il veut absolument la garder pour lui. Et il s'avère qu'ils arrivent à se barrer. En fait, quand ils arrivent à se barrer et qu'ils découvrent le dehors, la bergère dit en fait non, ça me fait trop peur, je retourne à l'intérieur. Qui est un espèce de truc de vœu en fait.
C'est le syndrome du kidnapper, là, je sais plus qu'on appelle ça.
De Stockholm. Non, c'est même, je le vois même pire que ça. C'est-à-dire que le moment où t'es face à la liberté d'entreprendre et prendre des risques et de te dépasser et découvrir autre chose, tu fais 4 pas en arrière pour rester dans une situation de confort qui te convient pas en fait.
Genre de peur de réussite.
Peur de découverte, de réussite, de ce que tu veux, mais un aveu de en fait j'ai pas la force, je préfère rester dans une situation qui me convient pas parce que j'ai pas la force de la changer quoi. Donc la base du conte c'est ça. Le film c'est encore autre chose. Ça parle d'ascension sociale. T'as un roi véreux qui vit dans une ville gigantesque où en fait les petits gens ils crèvent de faim pendant que lui il vit sa meilleure vie au-dessus. Ça parle de révolution, ça parle de révolte, il y a tout un délire sur, il y a un énorme robot là dans le film, je vais pas vous le spoiler si vous connaissez pas, mais il y a un énorme robot aussi à un moment, il y a le rapport entre robot et pensée, il y a plein de trucs qui sont mélangés avec une bande son qui est incroyable, qui est faite par un Polonais qui est exceptionnel et c'est un dessin animé qui m'a habité gamin, c'est la cassette que j'avais quand j'allais chez ma babysitteuse, j'avais ça et j'avais Fantasia, donc le rapport à la musique avec Fantasia forcément ça.
Fantasia 2000 ?
Fantasia 1, non à l'époque okay. C'était la cassette, c'était le 1.
Okay.
Le fait le 2000, je l'ai vu des années après sa sortie, qui est très bien aussi, hein, mais le 1, c'était vraiment une ambiance complètement fuckée. C'est un moment où on savait pas en plus pour l'extinction. C'est un film qui s'ouvre sur. C'est plein de petites séquences différentes. Et t'as un truc avec des dinosaures. Et à l'époque, on savait pas comment les dinosaures étaient morts. Et c'était une interprétation de comment est-ce que les dinosaures sont morts selon nous à cette époque-là. pas du tout de délire de. À un moment, on s'est pris un truc sur la gueule, ça a tout radé. Non, là, c'était une vague de chaleur, je crois, qui était imaginée à ce moment-là. Il y avait plein de trucs comme ça. Et puis après, il y avait d'autres scènes qui étaient vraiment très dérangeantes avec des crocodiles qui essayent de danser avec des hippopotames qui sont leurs proies, qui représentent des femmes, en fait, et les crocodiles, les mecs qui ont la dalle. Enfin, il y a plein de trucs que tu comprends après quand t'es plus âgé, tu vois. Mais gamin, je voyais ça en mode j'adore la musique classique, ça me va très bien. Et l'exercice était cool. C'est une volonté de Walt Disney d'ouvrir la porte en fait aux gosses à la musique classique. Et du coup, c'est ces deux trucs-là que j'ai le plus pensé. Ouais. Donc, si vous avez pas vu ça, ouais.
Et dans le catalogue Kana, tu prends quoi
en rapide, hein, mais... Pour Matsumoto, Samouraï Bambou, c'est le meilleur truc, je pense, qu'il ait jamais fait. C'est simple, efficace. C'est incroyable. Et si vous connaissez pas Kiloé, c'est très bien aussi.
Ok. Trop fort.
Voilà.
Musique, grosse importance dans ta vie?
Musique, très grosse importance dans ma vie. C'est un truc, je pète un plomb, je mets mon casque, je sors 5 minutes, je mets le son à fond les ballons et je reviens et je suis un nouvel homme quoi.
Ok, c'est... Ok, trop fort. On va arriver sur la question de fin.
Ouais.
C'est hyper large.
Ouais.
Donc vraiment, dis ce que tu veux. Mais un conseil que t'aimerais donner, un truc.
Un conseil.
C'est bizarre de donner un conseil parce que ça fait un peu, tu sais, t'as un coup, je sais pas, mais vraiment un truc que t'aimerais partager.
Il y a plein de choses. écoutez-vous, écoutez vos émotions. J'ai lu El Paradise récemment et dans El Paradise, il y a un perso qui dit que quand tu ne te confrontes pas à tes émotions, c'est la plus grande lâcheté, et au contraire, réussir à le faire, c'est le plus grand des courages.
Ouais.
Parce que tes émotions, au-delà de ce que tu ressens, il y a des raisons à ça. Il y a des problèmes, il y a des perceptions, il y a des trucs à clean, il y a des choses à faire. On vous le disait avant, moi, c'est un truc qui m'anime au quotidien de me remettre en question, de comprendre les gens et ainsi de suite. Mais c'est vrai pour tout, du coup. Si dans ta vie, t'es pas bien et que t'as les moyens de le changer, je le disais encore avant, il y a des gens, malheureusement, il y a des situations.
Les situations, elles sont impossibles.
T'auras beau leur dire, bouge ton cul, fais quelque chose. Frère, t'as pas idée de ce que vit la personne en face de toi. Tu ne peux juste pas dans certains trucs. Mais si vous avez l'opportunité, si vous pouvez le faire, écoutez-vous, allez vers des trucs que vous avez envie de faire parce que, la vie, en fait, t'en as qu'une. Et c'est con ce que je dis, hein. C'est hyper bateau. Mais t'as qu'une seule vie. C'est déjà tellement absurde en fait tout ce qui se passe. Si tu reprends un contexte beaucoup plus large de ça, l'univers, la Terre, T'es en train de trimer au quotidien pour pouvoir payer des factures, si, ne serait-ce que le principe de monnaie, si tu dézoomes vraiment au-delà de la planète et de la nature et de l'univers et de ce qui t'entoure, c'est tellement absurde. De là à t'expliquer les impôts, de là à t'expliquer la retraite, de là à t'expliquer tout ce qui va pas dans une société. Les politiques aujourd'hui, on va même pas en parler parce que c'est, voilà.
C'est un autre podcast. Ça.
C'est un autre podcast. enfin, tout ça, tout est absurde, en fait. L'absurdité de ce monde, elle est tellement dingue que si t'y donnes pas un sens profond, toi, à ta vie, tu pourras pas être heureux dans ta life et tu pourras pas entreprendre des choses et tu pourras pas faire le bonheur autour de toi, quoi. Parce que, il faut être aussi conscient que tu peux rien changer à l'état du monde. Moi, ça a été un long problème, mais notamment quand j'étais en burn-out, c'est que l'état du monde me pesait énormément. Jusqu'à ce que tu comprennes que, bah, soit t'es un mec complètement engagé et dans ce cas-là, t'y vas et tu fais des actions et tu prends part aux solutions qui sont proposées. Soit t'admets que t'es lâche, soit que t'admets que t'as pas la force de le faire, et c'est pas grave. Il y a plein de gens hein, comme ça. Moi, je suis comme ça. Je suis là, je sors plein de trucs. J'ai pas la force de m'engager dans des problématiques qui me dépassent et qui devraient changer. Mais le problème, c'est qu'en fait, si tu remets à l'échelle, tu te dis, moi, mon action, ça représente tellement rien par rapport aux maux de la société, des entreprises qui polluent de ouf. En quoi, moi, le sacrifice de ma vie devrait être obligatoire, sachant que ça changera rien puisque les mecs d'en face ne, tu prends les pollueurs, tu vois, ils mettent jamais les pollueurs, eux ne bougeront pas. Hein, donc en fait, moi, mon effort à moi représente rien par rapport à si eux faisaient quelque chose, tu vois. Sauf que c'est plein de gens comme moi qui le fait pas, qui mis bout à bout pourraient faire changer les choses, tu vois. Donc c'est un espèce de cercle vicieux de ça. Faut admettre tout ça en fait. Et j'ai vraiment cette image de le monde est en feu. Bah tu sais quoi, il y a du champagne au frais, t'ouvre ta bouteille, t'en fous partout et t'essayes de faire ta vie comme tu l'entends en étant en adéquation avec avec tes émotions et tes et ton éducation quoi.
Ah j'aime bien voilà. Le truc du champagne et du feu, c'est pas mal. Bah écoute merci beaucoup Thibaut.
Merci à toi.
Et puis bonne fin de salon.
Merci.
Si vous aimez le podcast, je vous invite à le partager un maximum, cela nous aide énormément. Et oui, même si on a déjà de super invités, on va avoir besoin de grossir encore un peu pour certains d'entre eux. N'hésitez pas à nous mentionner sur Instagram dans vos stories et ensemble montrons que les créatifs dans le manga savent faire de belles choses. N'hésitez pas à nous mentionner sur Instagram dans vos stories et ensemble montrons que les créatifs dans le manga savent faire de belles choses.